VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sédounia et Jean-Roger Bion. Tout d'abord, les titres.
Au Nigeria, les lycéennes anciennes captives de Boko Haram de retour à Chibok n'ont pas pu retrouver leur famille à Noël.
Au Niger, le ministre de l'Intérieur affirme que les combattants de Boko Haram sont totalement en déperdition dans le sud-est du pays.
Le premier ministre français Bernard Cazeneuve aujourd'hui à N'Djamena au Tchad pour son premier déplacement à l'étranger.
En République démocratique du Congo, 15 personnes ont été condamnées à 3 ans de prison après les récentes manifestations anti-Kabila.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi vivement au discours de John Kerry sur la vision du secrétaire d'État américain pour un règlement pacifique de la crise israélo-palestinienne.
L'administration Obama pourrait annoncer des sanctions contre la Russie pour interférence dans la présidentielle américaine du 8 novembre dernier.
Et ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo.
Pour l'instant, le journal.
Au Nigeria, une vingtaine de lycéennes de retour à Chibok après 2 ans de captivité aux mains de Boko Haram ont été empêchées par les autorités de retrouver leur famille à Noël. Bagasikoura, les autorités avancent des raisons de sécurité.
Les autorités locales avancent des raisons de sécurité pour justifier leur acte. Les 21 jeunes filles faisaient partie d'un groupe de plus de 200 lycéennes en majorité chrétienne enlevées par le groupe islamiste nigérian en avril 2014 à Chibok. Elles étaient arrivées à Chibok vendredi sous forte escorte militaire pour passer Noël en famille, mais ont finalement été gardées durant plusieurs jours dans la maison d'un parlementaire local pour des raisons de sécurité. La mère d'une lycéenne a accusé le gouvernement de, je cite, « briser délibérément nos cœurs en cette période de fête ». Les jeunes filles n'ont pas non plus été autorisées à assister à la messe de Noël dimanche, suscitant l'incompréhension et la colère d'habitants de Chibok. Mercredi, les proches des lycéennes ont finalement été autorisés à les rencontrer dans la maison où elles sont toujours enfermées.
Les combattants du groupe islamiste nigérien Boko Haram, qui a mené depuis 2015 des attaques très meurtrières dans le sud-est du Niger, sont totalement en déperdition. S'est réjoui hier Bazoum Mohamed, le ministre nigérien de l'Intérieur.
Les agissements de ceux qui restent comme résidus de Boko Haram dans certaines zones de la région de Diffa, dans le sud-est nigérien, indiquent clairement qu'ils sont totalement en déperdition, a indiqué à la presse Bazoum Mohamed en visite à Diffa, ville proche du nord-est du Nigeria, berceau de Boko Haram.
En République démocratique du Congo, 15 personnes ont été condamnées à 3 ans de prison pour rébellion hier à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, après des heurts lors des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. 34 autres, jugés en même temps, ont été acquittés.
Ces condamnations sont politiques parce qu'elles visent à satisfaire la hiérarchie. Nous allons en appel puisque le plan du droit, il n'y a pas eu de preuves matérielles de culpabilité, a déclaré à l'AFP Désiré Kasakula, l'un des avocats de la défense.
Les 49 prévenus avaient été arrêtés le 22 décembre au lendemain de 2 jours de violence lors du bouclage du quartier Machipisha, situé au sud-est, au sud de Lubumbashi, deuxième ville du pays et fief de l'opposant en exil, Moïse Katumbi.
Des témoins avaient alors expliqué à l'AFP que tous les jeunes garçons, adolescents et jeunes gens étaient systématiquement appréhendés. Selon les chiffres donnés par la police, 200 à 250 personnes avaient été arrêtées et 49 finalement traduites en justice.
Toujours en République démocratique du Congo, des inondations ont fait une 50aine de morts cette semaine en République démocratique du Congo et rendu 10 000 personnes sans abri, rapportent les autorités. Des pluies torrentielles lundi soir à Boma, dans le sud-ouest du pays, ont fait sortir la rivière Kalamu de son lit et 2 quartiers de la ville ont été inondés.
La recherche de corps se poursuit, invoquant le changement climatique. Des modèles scientifiques prévoient une hausse des intempéries sur l'Afrique centrale. Au cours du siècle à venir, le bassin du fleuve Congo devrait être le plus durement touché.
Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve doit effectuer aujourd'hui son premier déplacement à l'étranger à N'Djamena, où il va rencontrer les soldats de la force Barkhane et renouveler le soutien de la France au président Idriss Déby Itno, précieux allié anti-djihadiste.
Le Premier ministre en fonction depuis le 6 décembre va exprimer la gratitude du peuple français aux soldats de Barkhane qui luttent contre le fléau terroriste à des milliers de kilomètres de chez eux, a-t-on indiqué mercredi à Matignon. Cette force française, dont le QG se trouve à N'Djamena, mobilise près de 4000 hommes dans 5 pays du Sahel, Mali, Tchad, Niger, Burkina Faso et Mauritanie.
Cette force a été mise en place à la suite de l'intervention Serval qui a mis en déroute en 2013 les islamistes armés qui avaient conquis une grande partie du nord du Mali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État John Kerry a prononcé un discours dans lequel il a mis en exergue sa vision pour un règlement pacifique de la crise israélo-palestinienne quelques jours seulement avant son départ en tant que chef de la diplomatie américaine. Il accuse Israël d'engager un projet exhaustif pour s'approprier des terres palestiniennes et réitérer le soutien américain à la solution de deux États. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le chef de la diplomatie américaine est revenu sur la décision des États-Unis de ne pas opposer leur veto à la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU dénonçant la poursuite des implantations juives en Cisjordanie.
The vote in the United Nations was about preserving the two-state solution.
Le vote à l'ONU, a-t-il dit, visait à préserver la solution des deux États. C'est ce que nous avons défendu. Israël comme un État juif démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés de ses voisins, c'est ce que nous tentons de préserver dans notre intérêt et le leur. John Kerry a aussi déploré le désaccord exprimé publiquement par les autorités israéliennes avec les États-Unis sur ce dossier.
Regrettably, some seem to believe that the U.S. friendship means the U.S. must accept.
Malheureusement, certains semblent penser que l'amitié des États-Unis signifie que les États-Unis doivent accepter n'importe quelle politique, indépendamment de nos propres intérêts, de nos positions, de nos propres paroles, nos propres principes, même après avoir exhorté encore et encore à un changement de politique. Les amis doivent se dire mutuellement la dure vérité et l'amitié requiert un respect mutuel, a expliqué le secrétaire d'État américain. Pour John Kerry, les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de s'abstenir d'opposer leur veto à la résolution onusienne.
We could not, in good conscience, protect the most extreme elements of the settler movement.
Nous ne pouvions pas, en toute conscience, protéger les membres les plus extrêmes du mouvement des colonies qui tentent de détruire la solution des deux États. Nous ne pouvions pas, en toute conscience, ignorer les actions palestiniennes qui attisent la haine et la violence. Il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'aider l'un ou l'autre camp à créer un État unitaire. La solution des deux États est le seul moyen d'assurer une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. C'est le seul moyen d'assurer un avenir de liberté et de dignité pour les Palestiniens et un important moyen de faire avancer les intérêts américains dans la région, a souligné le secrétaire d'État John Kerry.
Pour sa part, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé hier le discours de M. John Kerry, le qualifiant de discours biaisé. Il l'a accusé donc d'être obsédé par la question des colonies israéliennes. Précision de John Lyndon.
Comme la résolution du Conseil de sécurité que le secrétaire d'État a fait avancer à l'ONU, son discours était biaisé contre Israël, a déclaré M. Netanyahou. Pendant plus d'une heure, il a traité de manière obsessionnelle des colonies et a à peine évoqué la racine du conflit, à savoir l'opposition palestinienne à un État juif et ce, quelles que soient ses frontières, a ajouté le Premier ministre. Lors d'une allocution télévisée, M. Netanyahou a accusé le secrétaire d'État d'être davantage préoccupé par les colonies plutôt que par le terrorisme. « Nous n'avons pas à recevoir de leçons de la part des dirigeants étrangers », a également souligné le Premier ministre israélien. Mercredi, John Kerry a défendu à nouveau la solution à deux États, israéliens et palestiniens, seule voie possible vers la paix entre les deux peuples. Une position saluée et qualifiée de courageuse par le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a pour sa part rappelé hier qu'il était prêt à reprendre des négociations de paix si le gouvernement israélien cessait la colonisation des territoires occupés.
L'administration Obama s'apprête à annoncer des sanctions contre la Russie en riposte à des allégations de piratage et d'interférence dans la présidentielle américaine du 8 novembre portée contre Moscou. Selon le Washington Post, la Maison-Blanche discute de comment punir rapidement la Russie en utilisant un décret signé par le président Obama l'an dernier.
La grande actrice d'or de l'âge d'or d'Hollywood, Debbie Reynolds, est décédée hier à 84 ans, au lendemain de la mort de sa fille Carrie Fisher, célèbre princesse Leia de Star Wars. La Minute Éco, Tatiana Mosso.
Algérie, le ministre de l'Industrie et des Mines a procédé à de nouvelles nominations à la tête de quatre groupes industriels publics. Sont concernés les groupes Algeria Chemical Specialties, la Société nationale des véhicules industriels, le groupe textile GTEX et le groupe Elec El Jazair. Ces nominations doivent accélérer les réformes industrielles. Télécom, NTN, l'opérateur sud-africain de téléphonie mobile condamné à une amende de 330 milliards de naira pour ne pas avoir désactivé des cartes SIM anonymes, serait déjà acquitté de 80 milliards de naira. Après négociation avec l'État nigérian, le géant des télécommunications implanté dans une vingtaine de pays africains a finalement été condamné à payer une amende très largement revue à la baisse, équivalente à 1,7 milliard de dollars, payable en 6 fois sur 3 ans. Construction, après la fusion, Lafarge Holcim passe à l'offensive en Afrique. Le numéro 1 mondial du ciment mise sur l'élargissement de sa gamme et une approche pays par pays. Désormais leader mondial du ciment avec un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros en 2015, le groupe a confié la région Afrique-Moyen-Orient à un seul patron, Saad Sebar.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Mondial 2026, Infantino soumettra son idée d'une phase finale de Coupe du Monde à 48 équipes au lieu des 32 actuellement.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, propose de faire passer le format de la phase finale de la Coupe du Monde à 48 équipes avec 16 groupes de 3 équipes à compter de l'édition 2026 pour plus d'intégration dans le plus grand événement sportif et social. La prochaine réunion du Conseil de la FIFA les 9 et 10 janvier à Zurich devra aussi analyser la proposition de créer un mondial à 40 équipes, mais la puissante association des clubs européens s'y oppose.
En Espagne, Malaga a un nouvel entraîneur.
C'est l'Uruguayen Marcelo Romero qui remplace l'Espagnol Juan de Ramos. Il faisait partie de l'équipe technique de Malaga depuis 3 saisons et avait même dirigé l'équipe pendant 3 matchs en 2015-2016. En tant que joueur, Romero a porté le maillot de Malaga pendant 6 saisons entre 2001 et 2007, remportant la Coupe Intertoto en 2002.
Dans le registre des transferts, Podolski intéresse un club chinois.
Tout à fait, Idrissa. Le club chinois de Pékin Guan serait prêt à verser 7 millions d'euros à sa formation actuelle de Galatasaray. L'attaquant Lucas Podolski est vainqueur du Mondial 2014 avec l'Allemagne.
Cyclisme, l'anglais Bradley Wiggins annonce la fin de sa carrière sportive.
Premier britannique lauréat du Tour de France en 2012 et quintuple médaillé d'or à Olympique, ce coureur cycliste a annoncé hier sa retraite à l'âge de 36 ans.
En NBA, Kevin Durant et LeBron James prennent la défense des arbitres.
Les deux stars de la NBA ont défendu des arbitres et fait part de leur hostilité au rapport quotidien de la NBA qui épluche les éventuelles erreurs d'arbitrage le lendemain des matchs les plus disputés. À l'origine, Idrissa, le choc de Noël entre Cleveland et Golden State, 109 à 108. Revanche de la finale de 2016, la NBA a admis lundi que les arbitres de la rencontre avaient commis 2 erreurs de jugement en fin de match. Et avec toi, Idrissa, les résultats des matchs de ce mercredi soir.
Indiana-Washington, 105-111. Charlotte-Orlando, 120-101. New York-Knicks, Atlanta, 98-102. Milwaukee-Detroit 119-94, Brooklyn Nets-Chicago 99-101, et les Clippers New Orleans-Pelicans 98-102, Phoenix-San Antonio 98-119, Minnesota-Denver 103-105. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, fin du procès des 49 personnes arrêtées lors des manifestations du 19 au 22 décembre dernier à Lubumbashi. 15 peines de prison ont été prononcées ainsi que 34 acquittements. De Lubumbashi, notre correspondant Narval Mabila.
Ils étaient des centaines de personnes arrêtées lors du bouclage au quart Katuba Kananga, Katuba Mbujma et Katuba Kisanga. Après les manifestations du 19 au 22 décembre, 49 ont comparu devant les juges du tribunal de grande instance de Lubumbashi dans une procédure de flagrance avec comme chef d'accusation mouvement insurrectionnel, vol qualifié, rébellion, destruction méchante, incendie volontaire. Procès qui a commencé le mardi dans la matinée, c'est ce mercredi, dans la soirée, que le tribunal a rendu son verdict. 15 personnes sont condamnées à 3 ans de servitude pénale. C'est la grande désolation pour les membres de famille. D'autres personnes sur les 49 ont été acquittées. C'est la grande satisfaction, comme s'exprime un acquitté.
Je suis très content, très heureux du fait que les 19, là, nous étions arrêtés. Ils nous ont incarcérés de l'autre côté, en train de nous torturer, tout ça. Mais quand même, nous venons d'être satisfaits, justement, parce que la justice vient d'être faite.
La plupart ont été défendus par un collectif d'avocats bénévoles. Maître Kassakula est à moitié satisfait et compte aller en appel pour les 15 autres condamnés.
Je suis un peu et à moitié soulagé parce que pour moi, il fallait libérer tous les 49. Et maintenant, nous irons en appel contre les autres qui sont restés là-bas. Et surtout qu'il y a eu un fou qui était parmi eux, qu'on les a tous poursuivis en Corée et que cette infraction ne pouvait pas tenir si on libère quelqu'un et on garde les autres. En tout cas, ça ne peut pas passer et que nous irons en appel pour ça. Mais pour les autres là, c'est vraiment non établi et peut-être c'est d'une manière politique qu'ils ont essayé de garder les autres et essayer de satisfaire la hiérarchie pour qu'il n'y ait pas de mutations.
Il y aurait des centaines de personnes qui croupissent dans les locaux de la police et de l'Agence nationale de renseignement. Même les avocats font l'objet d'enlèvements. Aujourd'hui à Lubumbashi, c'est un climat de terreur qui règne. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, les autorités sont plus que jamais déterminées à en finir avec les islamistes de Boko Haram. La nouvelle de la reconquête de la forêt de Sambisa par l'armée nationale est célébrée comme une étape majeure dans le rétablissement de la sécurité dans le nord-est du pays. Pour une analyse, Timothée Donangmai a joint au Nigeria le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos.
La situation actuelle est qu'ils ont réussi à les chasser de leur bastion principale et l'armée nationale compte maintenant transformer cette bastion en terrain d'entraînement pour l'armée nationale. Et mais cela n'empêche pas qu'on ait des attentats ici par là parce que les insurgés, en fuyant, veulent toujours faire savoir qu'ils existent. Alors on ne peut pas empêcher d'entendre des bombes ici, par là.
C'est clair qu'ils sont nombreux à se disperser au sein de la population civile. Comment parvenir à les contrecarrer?
Vous voyez, la situation ethnique du pays fait que, selon la tradition, il y a certaines localités que tout de suite, quand ils ont des étrangers parmi eux, signalent. Ils signalent ça non seulement aux autorités, mais entre eux, ils se connaissent. Mais il y a aussi culturellement des endroits au Nigeria où les gens se taisent beaucoup par peur d'être attaqués ou par être victimisés. C'est ça qui rend difficile la tâche à l'armée. Mais maintenant, les gens ont compris, ils font des rapports sous couvert, unanimes, pour que les gens ne sachent pas qui a fait le rapport. Alors, ça donne un peu de gain à la section sécuritaire. C'est pour cela qu'à Lagos, tout récemment, ils ont réussi à appréhender certains djihadistes qui se cachaient parmi la population.
Quelles sont les autres initiatives que le gouvernement doit mener, selon vous, pour définitivement régler ce problème Boko Haram?
Vous savez, c'est une première dans le pays. Alors maintenant, ils sont en train d'apprendre chaque jour qu'il ne fallait pas se retirer tout de suite parce que lorsqu'ils gagnent du terrain, les insurgés attaquent ailleurs et ils se déplacent et les autres reviennent. Et maintenant, ils ont fait de sorte que par chaque région, il y a des camps militaires qui sont vraiment actifs et non pas dormants comme on le faisait parce qu'il n'y a pas de guerre, les gens sont là, il n'y a pas d'ammunition, il n'y a pas de personnel. Maintenant, on laisse ici et là quelques régiments de l'armée et des forces de sécurité unifiées, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre, les policiers, les gendarmes, tout ça. Alors, et surtout, parmi les locaux, on fait aussi des recrutements et les gens restent sur place.
Le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos.
Washington Forum ce jeudi pour ce dernier numéro en 2016. On revient avec nos invités sur les événements marquants de cette année. Une année électorale chargée sur le continent africain, mais aussi la présidentielle américaine, l'histoire en marche à Cuba ou encore les attaques terroristes à travers le monde. Que retenez-vous de cette année écoulée? Quel personnage politique ou quel artiste aura retenu votre attention? Ou encore quel événement dramatique ou positif? Retiendrez-vous? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Retour sur l'important discours mardi du secrétaire d'État américain John Kerry qui a réitéré le soutien des États-Unis à la solution des deux États pour le conflit israélo-palestinien. De même qu'il a réfuté les accusations du gouvernement israélien selon lesquelles l'administration Obama n'a pas accordé à Israël le soutien dont il a besoin. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse d'Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington.
Kerry voulait vraiment présenter une dernière fois, souligner la rationalité, l'équilibre de la position américaine dans le sens de soutien de la solution de deux États. Et cette solution de deux États requiert que le développement des colonies juives israéliennes dans le territoire palestinien cesse d'être bâti parce qu'il représente naturellement un obstacle clair à cette solution. Il a aussi voulu souligner le soutien que le président Obama a toujours donné à Israël en face des accusations du premier ministre Netanyahu que les États-Unis, particulièrement Obama, n'ont pas été vraiment des alliés, des amis d'Israël, dénonçant un coup monté contre Israël, parlant d'une trahison, d'un abandon du grand frère américain. C'est-à-dire une dernière fois que l'administration Obama a voulu présenter sa position et souligner la rationalité de sa position.
Pourquoi prendre cette position maintenant, à moins d'un mois de la fin de l'administration Obama?
On l'a fait particulièrement parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations anti-américaines les derniers jours. Par exemple, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a annoncé qu'il y a des preuves que le vote au Conseil de sécurité avait été orchestré par l'administration américaine en collaboration avec les Palestiniens. Le ministre de sécurité intérieure israélien a même assuré que le discours de John Kerry éloignerait toute possibilité de faire avancer la paix quand Kerry nous a rappelé que c'est les États-Unis avec le président Obama qui a donné à Israël cette protection de cette coupole de fer qui le défend des missiles de Hamas contre le territoire d'Israël. Il a été très efficace la dernière fois qu'il y a eu un bombardement par Hamas du territoire israélien, que c'est Obama qui a approuvé 38 milliards de dollars d'aide militaire à Israël pendant les dernières années pour moderniser l'armée, l'équipement, tout ça, que les États-Unis ont toujours voté en faveur d'Israël, même la dernière fois qu'il y avait une résolution comme celle-ci de l'autre jour, en 2011, quand les États-Unis ont utilisé son pouvoir de veto. Aussi que ce n'est pas vrai que Obama n'a pas été ami d'Israël. Et même des grands présidents comme le président Reagan ont approuvé quelquefois de ne pas utiliser le veto pour empêcher le vote favorable à des résolutions des Nations Unies contraires à ce que Israël veut. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Obama.
Emiliano Viano, professeur de sciences politiques à American University de Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, des chercheurs affirment que les entreprises vont déployer de plus en plus de camions autonomes à mesure que les experts trouveront des solutions aux problèmes d'ingénierie, de réglementation et de sécurité. Le nombre croissant de camionneurs robots pourrait commencer à ravir des emplois aux 3,5 millions d'humains qui conduisent des camions aux États-Unis. Cette montée en flèche de la robotique automobile suit une vague d'automatisation qui a déplacé des millions d'Américains du secteur manufacturier. Ceci a eu pour effet un mouvement contre la mondialisation promu par Washington. Gaby Dorsil examine la question.
Les camions autonomes fonctionnent déjà dans les mines, tandis que les voitures robots participent à des courses en montée. Un ancien responsable de l'Administration nationale de la sécurité routière, Sean Liu, affirme que l'ère des conducteurs robots pourrait arriver plus tôt que ce que beaucoup d'experts ont prévu. Nous ne sommes pas si loin de la vision ultime d'une voiture entièrement sur pilotage automatique, prédit l'expert. Il existe actuellement plusieurs millions de camionneurs aux États-Unis. Les chercheurs perçoivent un risque croissant pour ces emplois parce que les robots sont susceptibles d'être moins chers et plus sûrs que les humains. D'ailleurs, la plupart des accidents de la route sont attribués à des erreurs humaines. L'amélioration de l'automatisation a aidé les fabricants à produire des biens avec moins de personnes. Les robots ne se joignent pas aux syndicats, ils n'exigent pas des heures supplémentaires, ni n'arrivent à leur poste avec une gueule de bois. La présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, s'attend à ce que les entreprises continuent d'embaucher moins d'humains et davantage de robots. La plupart des économistes et des décideurs reconnaissent qu'il est important de fournir des moyens aux travailleurs qui ont été lésés par ce genre de développement pour qu'ils puissent se recycler et réussir dans l'économie, a dit Mme Yellen. Fait étonnant, à un moment où la perte d'emploi reste un grand sujet de débat économique et politique, de nombreux postes techniques hautement rémunérés ne sont pas comblés. L'économiste Ken Simonson de la Société General Contractors of America affirme que les entreprises ont de la difficulté à trouver des plombiers, électriciens, tuyauteurs et autres. Nous allons continuer à voir un grand nombre d'industries lutter pour trouver des travailleurs qualifiés ou pour inculquer aux nouveaux arrivants les compétences dont elles ont besoin. Il est donc indéniable qu'une transformation est nécessaire, mais comment et à quel prix? Dans un entretien pour la série TED, David Hutter, économiste de MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, rappelle le grand changement de l'agriculture à la manufacture que les travailleurs américains ont réalisé vers la fin des années 1800 et au début du XXe siècle. Nous avons été confrontés à des transformations économiques tout aussi considérables dans le passé et nous avons réussi. Déclaration de David Hutter. Dans l'actuelle transition économique, le parcours risque d'être houleux pour les travailleurs parce que, selon les chercheurs, les changements majeurs des temps passés ont été très éprouvants et ont pris surtout de nombreuses années.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.